ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui avec Martin Pochon. Merci Martin d'avoir accepté de venir ce soir. Mais vous étiez déjà venu il y a quelques semaines nous parler de vos livres. Nous allons en reparler. Vous faites partie de la communauté jésuite de Toulouse. Et vous avez été depuis tout petit interrogé par le linceul de Turin qui a mobilisé beaucoup de vos recherches. Vous êtes aussi théologien, de la théologie biblique et ouvert au dialogue science et foi avec les croyants, incroyants, avec le gaïque. Enfin, beaucoup de choses. Vous arrivez à faire tout, mais commençons par le début. Tout petit, d'une famille
Famille, d'abord, merci de m'inviter, de me recevoir. Ma famille était chrétienne. J'ai des parents, père et mère, qui étaient des pratiquants, j'allais dire exigeants, c'est-à-dire essayant d'allier leur foi avec leur vie sociale de façon assez concrète. Voilà. Et puis, ma foi, que vous dire, la foi, quand est-ce qu'elle naît, on ne sait pas bien. Mais moi, je me souviens bien, alors que j'étais sans doute au CP, que je commençais à lire, j'ai lu une vie de Jésus illustrée et j'ai été très ému. On peut dire que c'est ma première émotion religieuse. Très ému en voyant que cet homme Jésus qui avait fait du bien, eh bien, il avait été tué.
Le cours préparatoire, c'est quelle année ?
Devais avoir 7 ans par là, quoi. C'est
l'âge de raison.
Tout juste, voilà. Et en tout cas, avec une question qui m'a traversé et que j'ai l'impression qu'il ne m'a jamais quitté, c'est pourquoi ils l'ont tué ? Pourquoi ils l'ont tué ? Vous voyez ? Voilà. Donc, une interrogation sur la figure de Jésus, sur le personnage de Jésus, sur sa vie. Voilà. Et puis, du coup, son inscription dans l'histoire avec l'adversité qu'il vit. Voilà. Ça a été ma première émotion religieuse, on va dire. C'est vrai que quelques années plus tard, vous avez évoqué linceul de Turin. Eh bien, j'avais 12 ans. Je le sais, donc c'était le 22 juillet 1961, et quelqu'un m'a offert un très beau livre sur le linceul de Turin de Paul Vignon, qui avait été un des précurseurs des études sur le linceul, et qui m'a frappé ce livre. Pourquoi ? Parce que sur une page, sur un beau papier glacé, il y avait la photo du linceul de Turin tel qu'on la voit à Turin. Et puis, il y avait en face le négatif. Et le négatif, lui, était un portrait d'une très grande beauté, d'un très bel équilibre, avec une très grande paix qui sort de... Et quand moi, ça m'avait frappé, j'aimais bien... J'étais dans un milieu familial qui aimait beaucoup la technique. Et du coup, c'est se dire, comment c'est possible ? Cette empreinte est un négatif absolument parfait, quoi. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette photo négative, des négatifs, que les études, les observations, les études scientifiques ont commencé à démarrer en 1898. Quoi.
D'ailleurs, vous nous faites le cadeau de la mettre sur le site où on peut réécouter cette émission.
Oui, j'ai mis les deux photos, à la fois le positif qu'on voit à Turin et le négatif qu'on voit dans tous les journaux, on va dire ça. Pourquoi ? Parce que dans les journaux, on montre toujours le négatif et on vous dit, vous voyez, c'est très beau, c'est sans doute un artiste qui a fait ça. Mais c'est impensable quand on voit le linceul de Turin lui-même avec une empreinte à peine visible et tout. On voit toujours dans les faux, on voit toujours la différence parce que les artistes, eux, cherchent à faire quelque chose qui parle au public. Voilà.
Mais pour que le regard capte cette différence, il faut avoir déjà des études, avoir fait des études, ou bien être scientifique, ou être peintre.
Pour moi, c'était... on faisait de la photo dans la maison, on voyait bien que ce que c'était qu'un positif, un négatif, étonnant. Et puis, du coup, depuis cette date-là, j'ai suivi d'abord d'un peu loin les études qui étaient faites sur le linceul de Turin, les controverses, parce que Dieu sait s'il y en a. Et puis, petit à petit, j'ai creusé un peu plus la question et puis je fais partie d'une association MNTV, Montre-nous ton visage, qui suit l'actualité des recherches. Et du coup, on n'en finirait pas, hein, il faut une conférence de 2 heures pour parler du linceul de Turin.
D'ailleurs, vous faites des conférences polytechniques à
Bagatelle. J'en ai fait dans tous les milieux, on peut dire ça, oui, voilà, oui, j'en ai fait à l'école polytechnique.
Et vous cherchez à convaincre Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je présente le linceul avec les études, les incertitudes qui peuvent rester, même si elles diminuent de plus en plus. Vous savez, beaucoup d'études qui ont été faites après la datation carbone de 1988 ont permis d'avancer, de mieux connaître le linceul. Parce que les résultats de la datation carbone étaient tellement étonnants que beaucoup de gens se sont mis à travailler dans tous les domaines pour essayer de comprendre pourquoi on avait ce résultat-là. Aujourd'hui, on sait, il y a eu en 2019, c'est pas vieux, un article qui est paru dans une revue à comité de lecture qui est Archéométrie, qui est une revue à comité de lecture de l'université d'Oxford. Archéométrie, donc, c'est mesure de ce qui est ancien. Il faut dire qu'à Oxford, ils ont aussi un radiocarbone, un laboratoire de radiocarbone. Bon, et ils ont obtenu, dans cet article, ils font état de la compilation de tous les résultats bruts qui avaient été faits en 88 jusqu'en 2017, on n'avait pas accès à ces résultats bruts. Là, on a, par ordonnance judiciaire, d'ailleurs, ils ont obtenu ces résultats bruts. Et puis, ma foi, ils les ont traités comme on traite tous les résultats de mesures radiocarbone. Et au bout du compte, on s'aperçoit que la fiabilité de cette mesure qui a été faite en 88 n'est pas bonne du tout, du tout. On pourrait même dire qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est recommencer. Parce que si on fait le test du KI2, si on regarde le taux de signification de la mesure, le taux de signification, c'est 1,6%. Ce qui veut dire qu'il y a 98,4 chances sur 100 pour que les écarts de mesure qu'on a entre Oxford, Arizona et Zurich, que ces écarts ne soient pas dus à des imprécisions ou des erreurs de manipulation ou que sais-je.
Mais la foi ne se prouve pas. Nous sommes dans deux domaines différents, de la raison ou du mystère.
Je crois à l'incarnation, c'est-à-dire que l'esprit se dit dans les choses, voilà. Et je crois à l'incarnation, donc je ne peux pas séparer les domaines comme ça. Et puis d'autre part, c'est simplement une pièce archéologique. Une pièce archéologique, c'est toujours intéressant. Quelle que soit la foi qu'on engage dans cette pièce archéologique, vous avez une momie égyptienne de la 14e dynastie, c'est passionnant. Bon, vous avez des momies de chats, très bien, c'est passionnant. Vous avez une pièce archéologique qui témoigne de cet homme, moi, qui m'a, depuis l'enfance, c'est vrai, fasciné, on va dire. Voilà, oui.
D'où des études que vous allez poursuivre, techniques.
Alors, moi, j'ai fait des études techniques par goût de la technique et des sciences, voilà. Oui, mais c'est vrai qu'à la fin, je savais que je ne serais pas forcément ingénieur, que j'exercerais pas forcément mon diplôme, voilà, et que je m'orienterais davantage vers ce qui me semblait des urgences sociales notamment, quoi. Parce que je m'étais engagé quand j'étais étudiant, dans une animation de jeunes dans une cité de transit qui accueillait des familles immigrées en 70, 72, 74 là, et je voyais qu'il y avait une urgence à travailler pour permettre à ces jeunes de s'intégrer dans cette société, quoi. Voilà, donc en fait, après, ma foi, ce que j'ai fait comme étude scientifique, ça m'a servi. Parce que, je me suis occupé d'une école de production pour former des jeunes immigrés, des jeunes issus de l'immigration, disons. Et à la fois, j'étais ingénieur, ça m'a servi au point de vue culturel pour cette école, pour faire marcher cette école.
Mais avant, il y a eu peut-être la petite parenthèse de l'Afrique. Vous, lycée professionnel, mais ça, c'était bien plus tard. Entre-temps, vous avez fait un détour, plusieurs détours en Afrique, au Tchad.
Oui, c'est-à-dire qu'après les études d'ingénieur, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque la coopération volontaire du service national. Et j'ai choisi de faire cette coopération dans un collège jésuite au sud du Tchad. Et c'était une découverte, une expérience interculturelle extraordinaire pour moi. Moi qui étais tombé dans le rationnel et les sciences depuis tout petit, là, j'étais dans un milieu, entre guillemets, animiste, où il y avait des esprits, vous voyez. Je me souviens d'une leçon de catéchèse sous un gros manguier, alors qu'il faisait 40-45 à l'ombre. Et puis, il y avait tous des adolescents qui étaient là en cercle. Et subitement, il y a eu un tourbillon de feuilles. Et tous les regards se sont portés sur le tourbillon de feuilles. Moi, j'ai pensé au Laplacien, à l'équation d'un tourbillon, vous voyez. Bon. Mais après, j'ai demandé à un compagnon jésuite qui était curé du village, je lui ai dit, mais pourquoi ils ont tous regardé ce tourbillon avec énormément d'attention? Ah, il me dit, mais c'est parce que c'était l'âme du grand-père qui passait, voilà. Évidemment, on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde, vous voyez.
C'est la spiritualité qui déjà vous habite. Alors, pourquoi tout d'un coup avoir choisi d'entrer chez les jésuites? C'est autre chose que la coopération.
Eh bien, j'étais donc dans un collège jésuite là-bas, parce que j'avais déjà l'idée, j'avais lu Teilhard de Chardin, j'avais aimé un certain nombre d'écrivains jésuites. Je savais qu'ils étaient, il y avait une grande diversité d'insertions pastorales chez les jésuites, aussi bien enseignants, écrivains, chercheurs, prêtres ouvriers, que sais-je. Voilà, et ça m'intéressait. Et puis, ma foi, j'avais vu qu'ils formaient, que les compagnons formaient une fraternité internationale. Et ça, c'était quelque chose qui me paraissait important à vivre.
Voilà. Et un choc personnel, cette musique que vous avez choisie, c'était alors, une sorte d'appel, peut-être?
Ben, cette musique, elle m'est chère. Pourquoi? D'abord parce que j'aime bien les paroles, mais que ces paroles sont aussi d'un compagnon jésuite, Didier Rimaud, qui a fait beaucoup de chants d'église et qui était un grand poète marqué par une culture biblique très profonde et une belle théologie, quoi.
Alors nous l'écoutons, Jésus qui m'a brûlé le cœur
au carrefour des Écritures.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Martin Pochon, vous êtes de la communauté jésuite de Toulouse. Vous nous avez parlé du linceul de Turin et maintenant nous allons aborder peut-être l'aspect de vos travaux en théologie biblique, mais surtout de l'ouverture aux autres. Fait que je sorte dans le soir, nous fait chanter Didier Rimaud, où trop des miens sont sans nouvelles, et par ton nom, dans mon regard, fais-toi connaître. Vous êtes missionnaire.
Il doit y avoir.
Mais pas prosélyte.
Il doit y avoir chez les jésuites un côté missionnaire, mais le propre des jésuites, c'est souvent qu'ils se sont inculturés dans les pays où ils sont allés annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils ont appris les langues. Au Tchad, mettons, au collège Charles Wanga, il y avait dans l'année deux semaines entières consacrées à l'étude des langues traditionnelles du pays pour permettre aux élèves de s'intéresser à leur propre culture et de pouvoir l'écrire, l'enregistrer, la transmettre et communiquer avec des langues voisines. Donc il y a toujours cette tradition-là. Et missionnaire, oui, parce que Moi, j'ai une conviction intérieure. Je crois au Christ mort et ressuscité. Je crois que son message est quelque chose qui fait vivre fondamentalement pour moi une grande espérance. Et en même temps, je rencontre jour après jour des gens qui ne partagent pas ma foi. Et donc, forcément, ça me questionne. Et certains s'expriment avec beaucoup d'intelligence. Et donc, ça provoque mon intelligence en disant, bon, alors, quels sont les arguments qu'ils développent? Est-ce que ce que je crois est illusoire ou est-ce que ça ne l'est pas? Vous voyez? Donc, voilà. Quand j'étais, évidemment, juste après mes études d'ingénieur, faisant les études de philosophie théologie de la compagnie, j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup d'histoire des sciences. Et du coup, de réfléchir à cette espèce de divorce qu'il y a eu entre les sciences et la foi. Et vraiment, d'abord c'est passionnant, mais plus ça a été, plus je me suis dit, c'est quand même, ce divorce est quand même aberrant. Parce qu'au fond, plus on découvre les lois de la nature, plus ça peut convaincre un chrétien, ça peut le conforter dans sa foi, qu'il est bien à la ressemblance du Créateur, puisqu'il est capable de comprendre les lois de la nature faites par le Créateur. Si on comprend ce que fait le Créateur, ça veut bien dire qu'on lui ressemble. Donc il y a une espèce d'axiome initial là, qui doit se déployer. Alors d'où vient ce divorce? Ça m'a beaucoup interrogé. Voilà. Mais c'est dans ce domaine intelligence de la foi, disons. Mais bon, j'ai eu l'occasion, évidemment, de travailler quelques philosophes et puis de rencontrer des gens agnostiques et d'essayer de comprendre pour leur réserve à l'égard d'une foi en une transcendance de la vie, une transcendance de Dieu. Voilà. Et quel visage il se faisait de Dieu pour qu'il le refuse. Voilà.
Même d'ailleurs chez les chrétiens, l'interprétation des Écritures, depuis votre livre « Adam et Ève » ou « La mémoire d'un avenir », puis ensuite « L'offrande de Dieu », et dernièrement, avec Emmanuel, ici, vous avez parlé de votre grosse œuvre sur la lecture des Hébreux, on aurait mal interprété.
C'est-à-dire peut-être que vous savez, chaque génération, ma foi, se risque dans une lecture et essaye, avec aussi tout le bagage qui est le sien dans cette époque-là, de réinterroger les textes fondateurs, de réinterroger sa propre foi. Vous voyez, Adam et Ève, mémoire d'un avenir, là c'était l'étude des chapitres 2 et 3 de la Genèse que je trouvais insupportable à cause de la figure de Dieu qui condamne à mort deux enfants qui viennent de manger une pomme, même s'il n'y a pas de pomme dans le récit.
Et le rôle de la femme également, parce que vous nous dites bien que c'est la manière de considérer l'épouse, la femme, qui nous parle de Dieu.
Alors, c'est vrai que moi je pense qu'il y a, ça fera un prochain livre, mais que, vous savez, on pourrait se donner un axiome, ou plutôt une maxime. Dis-moi quel est ton Dieu et je te dirai comment tu traites ta femme, ou ton prochain. Mais le plus proche pour un couple, c'est la femme pour un homme. Et donc, pourquoi? Parce que c'est vrai que, au fond, l'idée qu'on se fait de Dieu, c'est une idée de l'absolu, de la perfection, voilà, absolument.
Ou du Dieu vengeur, celui qui veut.
Je parle, oui. Voilà. Et si, en fonction de cette idée que l'on a de l'absolu, on va se comporter à la ressemblance de cet absolu qu'on a dans la tête. Donc, si c'est un Dieu vengeur qui écrase les ennemis et tout, ma foi, on aura tendance à légitimer la violence sociale ou l'armée, ou que sais-je, l'armée conquérante. Voilà. Et puis, si c'est un Dieu miséricordieux qui va jusqu'à aimer ses ennemis, à ce moment-là, on se comportera peut-être différemment. En tout cas, on sera invité à se comporter différemment.
Les promesses de l'Éden. Donc, nous sommes appelés au bonheur.
Alors, les promesses de l'Éden, oui, parce qu'on met le paradis au commencement. Mais en fait, c'est une espérance, parce que personne n'était là au moment de la création, et on place un état édénique pour dire que finalement, cette violence qu'on connaît, elle n'est pas inexorable. Et donc, au départ, Dieu, c'était pas comme ça. Donc, si c'était pas comme ça au départ, on peut espérer que demain, il n'en soit plus ainsi.
D'où votre dialogue interreligieux, d'abord avec Tariq Obrou, bien connu, imam de Bordeaux, et puis au groupe d'amitié islamo-chrétien.
Voilà, ça c'est quand j'étais aumônier d'étudiants à Limoges. Il était aumônier musulman des imams des étudiants marocains qui étudiaient les sciences à Limoges. Et c'est vrai qu'on peut dire qu'à ce moment-là, on s'est dégrossi l'un et l'autre dans le dialogue interreligieux, parce que, vous savez, on était sur des planètes extrêmement différentes. Sous les mêmes mots, on ne mettait pas du tout les mêmes choses. Et puis, au fil des ans, ce dialogue a duré quand même 3 ans, 4 ans. Ah, là, on avait trouvé une manière de s'écouter un peu, et puis de se questionner aussi. Oui, oui.
Voilà. Et votre travail comme aumônier aussi, ici, du groupe du service Incroyance et Foi.
Je ne suis pas aumônier du groupe Incroyance et Foi. Hein. Ah non, non, non. Moi, je suis participant. Voilà, et ça m'intéresse, comme je disais tout à l'heure, parce que je suis content. Je suis curieux d'entendre d'autres façons de se situer par rapport à l'existence que la mienne. Et ça questionne forcément ma façon de penser moi-même. Hein. Ça interroge ma propre tradition. Vous évoquiez tout à l'heure le livre « L'Épître aux Hébreux au regard des évangiles ». Eh bien, c'est sûr que j'interroge ce texte-là qui a donné de la mort du Christ une interprétation qui me semble difficile, qui ne correspond pas aux évangiles, selon moi. Hein. Ça se discute, hein, mais le dialogue est ouvert. Et qui, d'autre part, présente... autant le Christ, le visage du Christ est souvent bien perçu par les non-croyants ou agnostiques, autant parfois le visage qu'on peut donner du Dieu justicier est difficilement recevable en plus. Hein. Pourquoi ben, la question, c'est pourquoi des hommes bons et intelligents comme Victor Hugo, mettons, trouvaient insupportable la théologie de son temps, quoi. Et du coup, ne pouvaient pas souscrire à l'univers chrétien, quoi.
Que l'on redit encore parfois à Noël.
Le minuit chrétien. C'est l'heure solennelle, oui, où l'homme Dieu descendit parmi nous pour effacer la tâche originelle et de son père apaiser le courroux. Ben voilà, ça c'est... Il faut savoir que ce chant, il a été interdit par Lustiger à Notre-Dame, hein, quand même.
Ouais. Oui, et il y a d'autres aussi échanges avec les non-croyants sur la notion de spiritualité, puisqu'on sait qu'il y a toute une association démocratie et spiritualité.
Oui.
Peut-on parler à l'école de ces questions?
Alors, bien sûr, c'est-à-dire que c'est très intéressant de voir que, finalement, quelle que soit la conviction religieuse, la dimension spirituelle, la dimension de l'esprit, eh bien, est commune à tous les hommes, quoi. Voilà, et aujourd'hui, on voit que même si on est anticlérical, on peut être un spirituel profond. Maintenant, dans les écoles, eh bien, il y a ici, à midi, j'étais dans cette école, voilà, pour célébrer la messe. L'école primaire du Kaozu est une école qui, justement, a cherché depuis des années, notamment sous l'égide de sa directrice, son ancienne directrice, Danielle Granry, a cherché à inscrire, à apprendre aux jeunes, aux enfants, à être attentifs à cette dimension spirituelle. Autrement dit, non seulement à voir qu'est-ce que c'est telle chose, mais comment ça retentit en moi, les choses retentissent en moi. Autrement dit, comment elles agissent dans mon monde intérieur, dans ma spiritualité, quoi, dans le monde spirituel.
Comment vous pouvez partager une espérance avec d'autres personnes aussi qui souhaitent un meilleur avenir à l'humanité, même s'ils ne l'appellent pas le royaume de Dieu, et qui affirment croire au devenir de l'humanité?
Eh bien, je crois que c'est souvent par... on peut y avoir des raisons, hein, il peut y avoir des raisons. Mais c'est aussi par la pratique, quoi. Moi, je sais que j'étais pessimiste en maths spé, parce que je trouvais que les contraintes techniques du monde économique, etc., nous amenaient à peu près à notre perte. Et puis, m'engageant dans une cité des sans-abri de Lyon, je me suis engagé personnellement et j'ai vu, d'une part, des jeunes évoluer, et j'ai vu, d'autre part, j'ai tissé des amitiés très profondes. Et résultat, ben voilà, je me suis devenu optimiste parce que je me suis dit, si chacun fait ce qu'il a à faire, à ce moment-là, le monde change, et pour le bénéfice de tout le monde.
Et vous le portez dans votre prière personnelle, c'est pour ça que vous souhaitez terminer par une phrase des exercices de Saint Ignace.
Une prière d'Ignace de Loyola, qui est voilà, le fondateur des Jésuites. Voilà. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, tout ce que j'ai et tout ce que je possède. Tu me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends. tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi ton amour et ta grâce. C'est assez pour moi.
Voilà. Un beau programme de carême. Merci,
oui,
Martin.
Un programme de carême, sachant que l'offrande de soi, elle ouvre à quoi ? Sur l'écoute de ce que Dieu veut, de ce que Dieu aime, de ce qu'est l'amour. Voilà. Et donc, il faut après lui donner corps.
Ouais. Amour à partager. Merci, Martin. Merci aussi à Christophe pour la technique.